Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans ce 117e numéro de Marie Nostrum, le seul magazine radiophonique francophone qui se propose de vous faire mieux connaître la Méditerranée à travers les siècles et les pays qu'il aborde avec les chercheurs, mes invités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'esclavage dans la Grèce antique et pour ce faire, nous accueillons Paulin Ismar. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes professeur d'histoire grecque au centre Camille Julian à la MMSH, Aix-Marseille Université, dont nous sommes partenaires. Vos axes de recherche sont bien sûr l'esclavage. Vous avez beaucoup écrit dessus, donc l'esclavage dans la Grèce ancienne. Et puis, plus récemment, les mondes de l'esclavage, un ouvrage collectif auquel vous avez largement, très largement même participé. Et puis, plus globalement, vous vous intéressez donc à la politique, au fonctionnement de la politique à Athènes dans la Grèce antique. Voilà, vous avez fait des publications que je veux quand même citer. L'événement de Socrate, bon, les mondes de l'esclavage, je viens de le citer. La cité et ses esclaves, où on montrait donc le rôle primordial des esclaves dans la démocratie athénienne, on va d'ailleurs en parler pendant cette émission, la démocratie contre les experts, et puis Athènes 403 qui parle donc d'une guerre civile qui a mis un peu en péril la démocratie et sa transformation. Voilà, on va donc commencer par préciser les choses, en particulier le terme d'esclave, savoir précisément ce que c'est, puisqu'on peut un peu fantasmer sur ce terme-là. Donc qui sont les esclaves dans l'Antiquité ?
Alors, les esclaves dans l'Antiquité, ils sont à la fois ce qui est singulier par rapport à la représentation la plus spontanée, naturellement, qu'on a de l'esclavage. Quand on pense à l'esclavage, spontanément, on pense avant tout à l'esclavage issu de la traite transatlantique. Il y a des différences en réalité majeures par rapport à ce qu'est l'esclavage dans l'Antiquité. Non pas tellement qu'il s'agirait d'un esclavage plus doux, plus généreux, ou même moins important, parce qu'on peut dire que les sociétés antiques, aussi bien la Grèce d'époque classique et hellénistique qu'une grande partie du monde romain, au moins à partir du milieu de la République, sont des sociétés esclavagistes, c'est-à-dire des sociétés qui reposent fondamentalement sur l'institution esclavagiste, des sociétés qui ne peuvent se reproduire sans faire appel, sans recourir massivement à l'esclavage. C'est quelque chose d'absolument certain. Mais alors, qui sont ces esclaves ? Une singularité, c'est que ces esclaves, d'abord, si on pense au monde grec de l'époque classique ou hellénistique, ils peuvent être grecs ou non grecs, puisque il est tout à fait les droits grecs, disons les droits des sociétés civiques grecques depuis au moins la fin de l'époque archaïque, depuis le 6e, 5e siècle avant notre ère, rendent possible le fait d'asservir un autre grec à partir du moment où il n'appartient pas à votre cité. Ce qui, de toute façon, fait le lien civique, c'est l'impossibilité qu'ont des citoyens entre eux de s'asservir de toute façon les uns les autres, mais il est tout à fait possible d'asservir un autre grec. Bon, mais donc parmi les esclaves, il y a à la fois des Grecs et des non-Grecs. Et parmi les non-Grecs, c'est en grande partie les populations qui bordent le monde grec, qui fournissent les plus gros contingents d'esclaves, donc les Thraces dans le nord de la mer Égée, les Scythes autour de la mer Noire, les populations de l'Asie au sens le plus large. On a la présence de quelques individus esclaves présentés comme éthiopiens. Et puis, il y a très nombreux illyriens, des gens qui viennent plutôt, disons, du nord de la Grèce. Voilà, donc, donc des populations très, très, très variées. Alors, comment est-ce que des individus en viennent à devenir esclaves ? C'est très compliqué. On peut dire, évidemment, qu'une partie très importante d'entre eux ont été capturés à la guerre. Ce sont des victimes de la guerre au sens même ou d'un point de vue normatif. Chez les auteurs anciens, d'Aristote à Augustin, il y a l'idée que ce qui autorise un maître à avoir un esclave, c'est le fait que l'individu qui fait esclave était promis à la mort et que sur le champ de bataille, finalement, la survie lui a été accordée. Mais la survie en tant qu'esclave. Donc d'un point de vue normatif, c'est pas la supériorité prétendument raciale ou la supériorité d'un peuple par rapport à un autre qui justifie l'esclavage. C'est, disons, l'acte, c'est le droit du vainqueur à la guerre qui est quand même quelque chose de, d'absolument central. Et de ce point de vue-là, c'est Max Weber qui disait que dans l'Antiquité, la guerre, c'est une chasse aux esclaves. C'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sociétés qui sont en guerre aussi parce qu'elles ont besoin d'esclaves pour pouvoir se reproduire économiquement. Et donc, la guerre et l'esclavage ont évidemment partie liée. Mais la guerre n'est pas la seule source, disons, d'approvisionnement en esclaves. Il y a, par exemple, on se rend compte quand même de plus en plus que l'abandon d'enfants, l'exposition des enfants, est une source importante, à l'intérieur même de ces sociétés, de création d'esclaves. Il y a, d'un point de vue démographique, une énorme question qui est très difficile à résoudre, qui est dans quelle mesure les populations esclaves se renouvellent elles-mêmes par accroissement naturel. C'est-à-dire dans quelle mesure les sociétés antiques préfèrent renouveler les populations esclaves en faisant appel à l'accroissement naturel de la population esclave, ou, au contraire, en faisant appel à au marché, à la capture, etc. Bon, et ça, dans la très longue histoire de l'Antiquité, on voit bien qu'il y a des périodes au cours desquelles ça change. En grec, il y a cette notion d'oikogenes. Oikogenes, c'est les esclaves qui sont nés à la maison. Et on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus ils sont importants. Mais, de manière générale, on a quand même l'impression qu'on préfère, dans la mesure du possible, aller chercher les esclaves à l'extérieur plutôt que de devoir les faire naître et les produire à l'intérieur même de ces sociétés. Bon, voilà, ouais. Mais les raisons pour lesquelles des individus en viennent à devenir esclaves sont quand même évidemment très nombreuses.
Est-ce que ce sont les Athéniens qui ont inventé l'esclavage ou ça existait avant ?
Non, pas du tout. Alors l'esclavage, ce qu'on peut identifier comme étant de l'esclavage, on en trouve par exemple dans les textes mycéniens. Dans les tablettes mycéniennes, il est bien question d'esclavage. Dans le monde d'Homère, dans l'épopée, il y a des esclaves. Eumée, le porcher d'Ulysse, est un esclave. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même une transformation. Une transformation des régimes de dépendance, de manière plus générale, et des sociétés à la fin de l'époque archaïque, dans une grande partie de la Méditerranée orientale, disons, dans le courant du 7e, 6e siècle. Et ce qui s'invente à ce moment-là, ce n'est pas l'esclavage, parce que des esclaves, il en existait. Mais c'est ce qu'on peut appeler des sociétés esclavagistes, dans lesquelles une distinction très nette se construit entre libre et esclave, et des sociétés qui reposent, dont la base productive repose essentiellement sur l'esclavage, principalement sur l'esclavage. Et ça, y a bien une transformation au 7e, 6e siècle. Il n'est pas sûr qu'Athènes ait été la première, disons, à développer... massivement, comme ça, recourir massivement aux esclaves. Les textes anciens imputent plutôt l'invention, disons, de la société esclavagiste à la cité de Chios, et en disant que c'est la première cité qui aurait inventé l'esclavage marchandise. Mais alors, vous voyez, par exemple, dans le monde d'Homère, c'est très très frappant, à la fin de l'Odyssée, Eumée, quand il est récompensé par Ulysse, ce qui est frappant, c'est qu'il n'est pas affranchi. À la fin de l'Odyssée, Ulysse lui offre une maison et une épouse. Il lui permet de fonder une famille. Mais il n'y a pas d'affranchissement, à proprement parler. Et on voit bien que pour qu'une société esclavagiste naisse, il faut aussi qu'il y ait des institutions, un ensemble de règles qui lui permettent de fonctionner. Et l'affranchissement est l'une d'entre elles. De toute façon, il n'y a pas de société esclavagiste sans la possibilité de l'affranchissement. Et on voit bien que par exemple, dans le monde d'Homère, l'affranchissement n'existe pas, à proprement parler. Mais des affranchis, on en connaît dès la fin de l'époque archaïque.
Oui, donc ce qu'Athènes invente, finalement, c'est la société esclavagiste.
Oui, voilà.
C'est ça.
Avec cette gigantesque question qui est, comment est-ce qu'on définit véritablement... Alors là, c'est une question qui intéresse particulièrement les historiens qui travaillent dans une perspective comparatiste sur l'esclavage. Parce que cette notion de société esclavagiste, elle a été un peu inventée par Moses Finlay, qui est un très grand historien américano-britannique, dans les années 60, où il distinguait des sociétés à esclaves et des sociétés esclavagistes. Les sociétés à esclaves, c'est des sociétés dans lesquelles l'esclavage existe, mais l'esclavage n'est pas au cœur du fonctionnement de ces sociétés. Mais le problème, c'est que Finlay expliquait qu'il n'y avait que 5 sociétés esclavagistes dans l'histoire: la Grèce, Rome, les États-Unis jusqu'à la guerre de sécession, la Caraïbe ou les Antilles britanniques, francophones, hispanophones, et le Brésil, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais de ce point de vue-là, pour Finlay, il y avait une forme d'exceptionnalité européenne ou occidentale. Aujourd'hui, on pense plus en ces termes-là. C'est-à-dire qu'on, mais la distinction, c'est-à-dire qu'on a montré que des sociétés esclavagistes, il y en a bien plus, enfin, en bien plus grand nombre dans l'histoire que ces cinq sociétés-là, que de ce point de vue-là, c'est ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elles se ressemblent toutes, elles ont toutes leurs spécificités. Mais en même temps, la distinction entre société à esclaves et société esclavagiste, elle reste pertinente. Et on peut dire que le monde grec, fin 7e, 6e siècle, est là sans doute quand même. Il y a une singularité par rapport aux sociétés méditerranéennes de la même époque, passe d'une société à esclaves à une société esclavagiste. Pas tout le monde grec, mais une partie importante du monde grec.
Alors, dans la société athénienne, qu'est-ce que ça représente, ces esclaves, dans la démocratie, hein, puisque à partir du moment où on parle de société esclavagiste, c'est qu'il y a une introduction de l'esclave à l'intérieur du fonctionnement de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils représentent, ces esclaves? Ils sont indispensables pour Athènes?
Alors, ils sont indispensable. Alors peut-être qu'il faut partir de la question plans. De la démographie,
oui.
qui est quand même difficile à résoudre.
Oui. Oui.
Puisque faire de la démographie historique au sujet de l'Antiquité, c'est quelque chose de complexe. On a évidemment peu de chiffres, ces chiffres sont contestables, mais disons qu'aujourd'hui, il y a quand même un relatif consensus parmi les historiens pour considérer que, disons, à l'époque classique, les esclaves représentent peut-être entre 30 et 50% de la population. Voilà. Ce qui, évidemment, est absolument considérable. Alors, ils sont indispensables au fonctionnement de la société athénienne et d'un certain nombre de sociétés du monde grec, hein, pour plein de raisons. D'abord, en termes juste de base productive. C'est-à-dire que les esclaves sont présents quand même dans tous les secteurs de la production. Avec vraiment une particularité par rapport aux sociétés esclavagistes de l'époque moderne, c'est qu'aucun métier ne leur est interdit. Et que de très nombreux secteurs d'activité, ils travaillent aux côtés des libres. Donc on les voit sur les chantiers, dans les ateliers artisanaux, dans la marine des cités. On les voit aussi, en fait, alors c'est très discuté, mais je pense qu'aujourd'hui on peut vraiment le montrer, on les voit aussi évidemment dans le travail agricole. Donc, de toute façon, ils sont présents partout, ce qui ne veut pas dire... Il faut sortir de l'idée que... Tout ça, c'est vraiment des représentations très, très schématiques sur les cités antiques. L'idée qu'être citoyen, c'est ne pas travailler. Ce n'est pas vrai. La très, très grande majorité des citoyens travaillent. Et souvent, ils travaillent à côté des esclaves. Et souvent, dans des positions qui peuvent être, en fait, en termes d'activité productive, assez semblables.
Oui, c'est les mêmes activités.
C'est les mêmes activités, et il y a des configurations où on a l'impression que même des esclaves peuvent être placés par leur maître en position d'intendant, à la tête d'un atelier, à la tête d'une exploitation, et de ce point de vue-là, être en position de commandement ou d'autorité, en tout cas, vis-à-vis d'individus libres. Donc dans la sphère du travail, à proprement parler, un esclave pourrait donner des ordres à des hommes libres. Ce qui, par exemple, est impensable dans les sociétés esclavagistes de l'époque moderne. Très difficilement imaginable. Donc, évidemment, on est dans une économie qui repose essentiellement sur l'esclavage, avec des secteurs d'activité dans lesquels les esclaves sont hyper présents et parfois des secteurs d'activité qui réclament de grandes compétences. Par exemple, le secteur bancaire. La banque dans l'Antiquité grecque repose essentiellement sur le travail des esclaves. On a plusieurs grandes figures comme ça de banquiers célèbres dans l'Antiquité, dont certains même vont faire fortune, alors, et en faisant fortune, vont quitter le statut d'esclave, vont devenir affranchis, puis parfois même jusqu'à accéder à la citoyenneté, mais qui sont des banquiers au départ esclaves. De ce point de vue-là, c'est une société qui repose évidemment sur l'esclavage.
C'est la vraie richesse finalement d'Athènes.
La vraie richesse, en tout cas, c'est une condition indispensable à la prospérité athénienne. C'est absolument sûr. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas penser de manière générale, le développement à la fois économique, politique, impérial, athénien à partir de l'époque classique, sans prendre en compte cette dimension centrale qu'est l'esclavage. C'est absolument certain. Alors après, penser le lien, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de penser le lien entre le développement de la démocratie et l'esclavage, c'est plus complexe. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue, ne serait-ce que de contemporanéité historique, ce lien est indiscutable. Bah, Finlay, dont on parlait, il évoquait ce qu'il appelait la marche main dans la main de la liberté de l'esclavage dans le monde grec. C'est-à-dire les sociétés grecques deviennent, inventent la démocratie en même temps qu'elles deviennent des sociétés esclavagistes. Et donc ce lien, il faut arriver à le penser entièrement. C'est-à-dire que l'égalité entre citoyens, qui est quelque chose, évidemment, c'est le cœur de ce qui s'invente au cours du VIe siècle et qui est évidemment admirable, mais n'est possible que parce qu'il y a cette exclusion massive d'individus qui ne sont pas considérés comme des personnes à proprement parler, et donc qui sont radicalement exclus de la communauté. Mais par exemple, moi, une question qui m'intéressait beaucoup, c'est par exemple la question de la représentation. Parce que j'ai essayé de montrer que ce qui caractérise la démocratie athénienne dans son fonctionnement essentiel, c'est qu'elle n'est pas représentative, c'est que c'est une démocratie directe. Donc deux citoyens ne se représentent jamais l'un l'autre. La représentation entre des individus libres est quelque chose d'impossible. Et alors c'est quelque chose de très précis dans le fonctionnement du droit athénien. Mais la représentation est impensable. Et j'ai essayé de montrer qu'une des raisons tient à l'esclavage. C'est-à-dire que dans l'esclavage, il y a une forme de représentation intégrale, absolue. Parce que l'esclave n'existe pas en tant que personne, et du coup, le maître agit par l'intermédiaire de son esclave. Puisque, dans plein d'actes courants, c'est l'esclave qui fait un certain nombre de choses, mais la responsabilité est entièrement imputée au maître. Et inversement, l'esclave n'existe pas, il n'existe que dans la personne du maître. Et donc là, dans la pensée ancienne, il y a l'idée de la représentation s'accomplit parfaitement dans l'esclavage, mais elle s'accomplit parfaitement au prix de la disparition ou de l'inexistence en tant que personne juridique d'une des deux parties, c'est-à-dire de l'esclavage, de l'esclave, pardon. Et c'est précisément, je pense, parce que la représentation est impensable sans la soumission, que la représentation entre deux hommes libres est impensable, est impossible. Donc là, je pense qu'il y a un lien, si vous voulez, entre l'absence de représentation et la question de l'esclavage.
On va faire une pause musicale. Je vous propose d'écouter Nabucco, bien sûr, le chœur des esclaves de Verdi. ces citoyens grecs qui vivent donc dans cet environnement, quel est le regard qu'ils posent, quel est le jugement même qu'ils peuvent éventuellement porter sur la présence de ces esclaves, donc sur l'esclavage qui fait fonctionner la cité?
Ce qui est compliqué à penser pour nous, c'est que l'esclavage en tant qu'institution n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation de la part des auteurs anciens. Jamais. Alors, évidemment, il y a des discours, il y a des discussions sur le comportement de tel ou tel maître. Il y a une forme d'éthique esclavagiste, si vous voulez, qui est autour de laquelle on réfléchit. Comment est-ce qu'on comporte avec ses esclaves? Comment est-ce qu'on gère son groupe d'esclaves, etc. Ça fait l'objet d'une réflexion. Mais la légitimité même de l'institution esclavagiste, en soi, n'a jamais fait l'objet de véritables discussions chez les auteurs anciens. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un monde dans lequel l'esclavage puisse véritablement être aboli. Alors il y a des textes antiques dans lesquels on projette dans un passé extrêmement ancien ou dans des espaces utopiques l'hypothèse selon laquelle une société pourrait vivre sans esclaves. Donc par exemple, chez Aristophane, il y a l'idée que dans une société d'un passé extrêmement ancien, c'est toute une scène très belle dans laquelle on explique que les objets se déplaceraient eux-mêmes. Mais c'est un impensable. C'est-à-dire que dans le temps de l'histoire, il est impensable qu'une société existe sans l'esclavage. Mais en fait, il faut bien comprendre que, parce que vous avez mentionné le livre « Les mondes de l'esclavage », qui est un grand livre d'histoire comparé des sociétés esclavagistes. Ce qui est très clair, c'est que l'abolitionnisme, ou l'idée même selon laquelle une société peut vivre sans l'esclavage, est une idée extrêmement récente, partagée par très peu de sociétés, qui est le produit d'une configuration historique très très singulière, qui est celle du monde colonial impérial européen. C'est-à-dire un monde dans lequel, qui de toute façon est un monde schizophrène, c'est-à-dire un monde dans lequel on exploite des esclaves dans les colonies, en considérant que dans l'espace des métropoles, l'esclavage est aboli, puisque c'est le principe du sol libre, c'est-à-dire aucun esclave qui arrive, ce qui en pratique n'est pas tout à fait exact, mais n'importe quel esclave qui arrive en Europe devrait être théoriquement libre. Donc c'est un monde qui bénéficie, dont la prospérité repose sur l'exploitation des colonies, et donc repose en partie sur l'esclavage, mais des sociétés européennes, qui en même temps ne voient pas d'esclaves dans leur environnement quotidien, et du coup en viennent à presque imaginer conceptuellement qu'elles peuvent vivre sans esclaves. Et c'est dans ce contexte-là que quelque chose comme l'abolitionnisme peut se développer. Mais des sociétés qui ont réellement longtemps pratiqué l'esclavage, l'idée d'abolir cette institution alors même qu'elle existe, c'est d'une complexité considérable. Il suffit de penser à toute l'histoire de l'Empire ottoman au XIXe siècle, à la guerre de sécession aux États-Unis. C'est l'abolitionnisme qui est exceptionnel. Les Grecs n'ont jamais pensé qu'une société pouvait vivre sans esclaves ou sans esclavage. Alors après, tout le problème qu'on a, sur quel texte s'appuyer pour essayer de comprendre la façon dont les Grecs envisageaient ou légitimaient l'esclavage? Les textes sont en fait très peu nombreux. Et c'est un peu un malheur qui fait que le texte qu'on connaît, enfin qui nous a été transmis de façon la plus complète, c'est le livre 1 de la Politique d'Aristote, dans lequel il y a cette justification de l'esclavage à partir du concept d'esclave par nature, qui est une création aristotélicienne. Mais l'esclave par nature d'Aristote ne dit rien de la pensée grecque ordinaire de l'esclavage. C'est en fait quelque chose de très sophistiqué, qui en fait est une réponse à un certain nombre d'auteurs. Ça, on peut tout à fait le montrer. C'est pas non plus, on peut pas en faire une forme d'esclavage racialisé comme à l'époque moderne, c'est encore autre chose. C'est un texte très problématique, mais ça décrit pas la pensée grecque de l'esclavage.
Et est-ce qu'on peut dire que, justement, vous parliez de colonisation, et finalement du fait que les États colonialistes ont finalement abordé l'abolitionnisme, est-ce qu'on peut dire que les pays qui ont fourni l'esclavage, est-ce qu'on peut dire que ça leur était complètement étranger, ne serait-ce que l'idée de l'abolitionnisme ou l'idée qu'on pouvait très bien avoir une société sans esclaves? C'est peut-être un peu stupide comme question, mais est-ce que ça n'a pas entraîné justement le fait qu'une partie des populations de ces pays qui ont fourni l'esclave, est-ce qu'ils ne considéraient pas ça comme normal à un moment donné, ou en tout cas pas répréhensible?
Non, mais pour moi, il y a deux questions un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a la question de savoir s'il a pu exister des traditions abolitionnistes en dehors de l'Europe occidentale. C'est un grand, grand débat. Par exemple, on met en évidence aujourd'hui des traditions à l'intérieur de la pensée musulmane, qui, depuis la fin du Moyen-Âge, où il y a des critiques très très fermes de la pratique de l'esclavage, des critiques nettes de l'institution de l'esclavage chez certains auteurs. Est-ce que, pour autant, c'est une pensée abolitionniste au sens où on conçoit véritablement une société dans laquelle il n'y aurait aucun esclave, c'est pas certain, et ça fait vraiment l'objet de discussions. Alors après, l'autre question qui est celle de savoir quelle était la forme prise par l'esclavage au sein des sociétés qui ont été les principales victimes de la traite, et en particulier les sociétés africaines qui ont été victimes de la traite transatlantique, ça c'est une autre question qui est gigantesque. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas, comment dire, on peut pas interroger cette dimension sans immédiatement essayer de comprendre ce que la traite a fait à ces sociétés. Puisque ces sociétés sont essentiellement documentées par des sources coloniales. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est des sociétés dans lesquelles il existait des régimes de dépendance, des statuts de dépendance très importants, très variés, que certains de ces statuts relevaient d'une forme peut-être d'esclavage. Mais ce qui est certain aussi, c'est que ces sociétés, dans les mondes de l'esclavage, beaucoup d'auteurs insistent sur ce point, ces sociétés qui ont été radicalement transformées par l'existence même de la traite. C'est-à-dire la demande par des marchands européens d'esclaves, la possibilité que les classes dominantes dans ces sociétés avait de négocier avec ces marchands européens le sort des hommes ou des plus démunis dans ces sociétés, a transformé les régimes de dépendance à l'intérieur de ces sociétés. Et donc, le statut d'esclave marchandise peut-être était très marginal ou existait à une échelle très réduite dans certaines sociétés et s'est développé au contact de la traite. Et on sait bien que des royaumes guerriers, en particulier dans la Corne de l'Afrique, se sont développés en raison même de l'existence de la traite. Parce que la traite permettait de générer du surprofit. Donc ces sociétés ont évidemment été transformées par la traite transatlantique. Donc c'est difficile de ce point de vue-là de les aborder, comment dire, en excluant, sans les intégrer à cette grande transformation.
Tout à l'heure, vous parliez du commerce des esclaves. Bon, vous avez évoqué le fait que ces esclaves remplissaient des tâches multiples dans toute la société, ce qui veut dire que finalement, on dit, alors vous allez peut-être me contredire, on dit que c'est grâce à, justement au fait qu'ils occupaient un certain nombre de métiers, même tous les métiers à peu près, est-ce que ça permettait véritablement aux Grecs, aux citoyens grecs, de participer à la démocratie, de participer aux institutions ? Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que c'est ça la raison de leur participation ?
C'est un aspect, mais c'est pas, on n'explique pas tout de la démocratie quand on dit ça. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, comme les esclaves travaillaient, ça libérait du temps pour les citoyens dans le cadre d'une démocratie. Parce que c'est vrai que la singularité de la démocratie athénienne, par exemple, c'est qu'elle suppose quand même la participation des citoyens, la participation active à un nombre considérable de tâches, de fonctions pour voter, pour délibérer, pour exercer sa magistrature. Etc. C'est vrai. En même temps, le fait est que la très grande majorité des citoyens athéniens travaillaient. Et que la démocratie athénienne a institué un système qui est celui du mistos, qui permettait aux citoyens d'être rémunérés pour pouvoir participer aux institutions politiques. Et donc, après, financer le mistos suppose, en revanche, une certaine prospérité, un développement économique non négligeable d'Athènes au cours du 5e siècle, et qui doit beaucoup à l'impérialisme. Donc, c'est plutôt la configuration athénienne qui est celle de l'ensemble du 5e siècle, dans lequel l'esclavage joue un rôle important, mais c'est l'ensemble de la situation athénienne qui a à voir avec l'impérialisme, qui rend possible, disons, l'accroissement des pouvoirs du démos, et donc la démocratisation de la société athénienne. L'esclavage est un de ces éléments, mais c'est pas l'idée si simple que les esclaves travaillent, et donc ils laissent du temps libre à leur maître pour qu'ils délibèrent et qu'ils votent.
Donc ça veut dire que les citoyens grecs sont pas si fainéants que ce qu'on dit.
Non, pas du tout. Non, bien sûr. Non, c'est seulement, si vous voulez, c'est, en fait, quand on pense ça, c'est parce qu'on a en tête des grands textes qui sont parfois des textes très, très beaux, très puissants, en particulier de la philosophie politique athénienne, Platon, Aristote, qui exaltent la scolée, qui exaltent le loisir dont dispose le citoyen et qui souvent ont un discours méprisant à l'égard du travail. Mais ça, c'est le regard d'une frange très particulière de la société athénienne. Ce mépris à l'égard du travail et des activités de travail, il n'est pas communément partagé par tous les citoyens qui travaillent et pour certains d'entre eux qui valorisent le travail. Hein. Et Phaistos, c'est une grande figure de la pensée grecque. Et c'est une figure qui est exaltée dans la démocratie du 5e, 4e siècle.
On va faire une autre pause musicale. Je vais vous proposer donc Tennessee Ernie Ford qui chante un magnifique blues qui s'appelle Sixteen Tone, qui est dédié donc aux mineurs.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ces esclaves donc sont quand même une richesse, et cette richesse elle vaut par le volume d'esclaves qu'on possède et donc par le commerce. Est-ce que c'est un commerce comme un autre d'ailleurs? Comment ça s'organise, cette vente? Alors vous nous avez dit tout à l'heure comment on devenait esclave, mais maintenant après comment on est vendu, quoi. Comment se déroule ce commerce des esclaves? Est-ce qu'il est lointain d'ailleurs, ce commerce? Est-ce qu'on va loin chercher des esclaves?
Oui, on peut aller assez loin, au sens, alors on voit des marchands, par exemple, qui commercent aux confins du monde grec. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des esclaves, c'est très clair. Par exemple, dès une époque assez ancienne, par exemple, au contact du monde scythe, où on voit que c'est au cœur du commerce que les Grecs, en général, entretiennent avec les scythes, c'est la vente d'hommes, tout simplement. On voit des marchands, par ailleurs, qui accompagnent les grandes armées, et parfois très très loin. Qui sont toujours dans le sillon des armées, par exemple dans les grandes armées hellénistiques qui vont parfois très loin en Asie, vous avez des marchands.
Les marchands sont derrière, voilà, et récupèrent.
Oui, exactement. Alors, avec quand même cette distinction qui est très importante dans le monde grec et dans la Méditerranée, en fait, antique, médiévale et même moderne, mais qui fait l'objet de plein de discussions chez les historiens, qui est la distinction entre captifs et esclaves. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Alors, bien sûr, la plupart des esclaves ont été captifs à un moment. Mais il y a un marché des captifs en Méditerranée qui n'est pas un marché des esclaves. C'est-à-dire que le marché des captifs, c'est quand un individu a été capturé et que pendant un certain temps, on cherche à en obtenir une rançon pour le libérer. Et dans ce cas-là, on va essayer de mobiliser les réseaux qui peuvent être les siens. Entrer en contact avec sa famille, des gens de sa cité, etc. Et c'est bien un marché de la rançon, hein, qui a des règles tout à fait spécifiques, mais ce qui est essentiel, c'est que dans ce cadre-là, l'individu est encore considéré comme libre. On ne peut pas tant le maltraiter que ça. Et il garde tous ses attributs sociaux. À partir du moment où vous décidez d'en faire un esclave, et donc ça, c'est une décision pas du vainqueur, hein, si on reste vraiment dans le champ de la guerre, bah, tout change. Puisque là, tout d'un coup, il perd tout son statut social. Il perd son nom, potentiellement. Il perd toutes ses qualités, au sens de son appartenance à une famille, etc. Et il devient un esclave. Et là, vous pouvez le placer sur le marché des esclaves. Mais alors, ces deux marchés, marché des captifs et marché des esclaves, peuvent être articulés. C'est-à-dire que le prix sur les marchés des captifs a des conséquences sur le prix des marchés des esclaves. Et il y a des historiens qui essaient de travailler sur les évolutions conjointes du marché, des prix sur les marchés de captifs et sur les marchés des esclaves, par exemple à l'époque médiévale, en Méditerranée orientale. Il y a des travaux qui ont été conduits dans ce sens. Mais c'est deux choses qui sont assez différentes. Donc, par exemple, Platon a été fait captif en revenant de Sicile. Il est peu certain qu'il ait été fait esclave à proprement parler. Ouais. Bon, donc cette distinction, elle est quand même conceptuellement, disons, importante.
Qui c'est qui fait le choix ?
C'est celui qui exerce la possession sur la personne. Ouais. Donc, si on prend une configuration comme ça, c'est un peu un idéal type, hein, mais c'est quand même le chef militaire.
Ouais.
Le général, le stratège, etc.
Il a des critères.
Qui fait des individus. Donc ils peuvent être, puisqu'on parlait des marchands qui accompagnent l'armée, ils peuvent être revendus aux marchands, à charge pour lui ensuite de les revendre, etc. etc. Bon, mais donc il y a toute une économie, hein, qui évidemment est très très importante. Vous demandiez, est-ce que c'est un type de marchandise comme les autres, ou est-ce que les marchands d'esclaves sont des marchands comme les autres ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'opprobre sur leur activité. Hein. Et on a des stèles funéraires assez impressionnantes de la fin de l'époque hellénistique ou du début de l'Empire, où on voit des marchands d'esclaves se mettre en scène par des très belles iconographies en tant que marchands d'esclaves, fiers de leur activité. De ce point de vue-là, oui, on peut dire c'est un marché comme les autres. Alors, une grande, grande question pour les historiens, qui est vraiment très intéressante, c'est d'essayer de reconstituer, par exemple, sur le plan archéologique, le fonctionnement des marchés d'esclaves. Comment est-ce que ça fonctionnait ? Alors, très souvent, en fait, le problème, c'est qu'on projette parfois ce qu'on sait des marchés d'esclaves du XVIIe, XVIIIe siècle sur les réalités antiques, en se disant qu'il y a un certain nombre d'éléments dans l'organisation de l'espace, les structures du bâti, qui doivent se reproduire et qui sont exigés d'une certaine façon par le fait même de vendre des hommes, ou des femmes, ou des enfants. C'est-à-dire, donc on imagine par exemple des espaces dans lesquels il est très difficile de s'échapper. Donc ça qualifierait spécifiquement un marché d'esclaves par rapport à d'autres types de marchés. Donc, par exemple, si vous voulez, à Délos, l'Agora des Italiens, qui est une très grande place à Délos, et on sait que Délos est un très très grand lieu, c'est Strabon qui dit qu'à Délos, on vend plus de 10 000 esclaves par jour à l'époque hellénistique. Alors, c'est un chiffre très certainement excessif, etc. Mais en tout cas, c'est un immense lieu où on vend des hommes, des femmes, des enfants, il n'y a absolument aucun doute. Et à Délos, vous avez cette très grande place qu'est l'Agora des Italiens, et un archéologue italien très célèbre, Filippo Quarelli, considérait que c'était un marché d'esclaves. Et les arguments qu'il utilisait, c'était de montrer que vous aviez une série de pièces fermées, que l'accès à l'Agora était très difficile, c'est-à-dire qu'il y avait juste deux entrées, avec des entrées séparées pour les individus qui avaient accès à ces petites pièces et ceux qui pouvaient les observer, et souvent qui pouvaient les observer depuis une terrasse supérieure. Bon. Et donc il disait, là, vous voyez, on a une agora qui a des règles tout à fait spécifiques, et ça peut correspondre qu'à un type de marchandise, c'est les esclaves. Alors ça a été abondamment discuté, aujourd'hui on est plutôt revenu sur l'idée de Corelli, mais c'est quand même ce que les historiens et les archéologues cherchent bien souvent. Quand même, en fait, à l'étude des textes et des inscriptions, on a plutôt l'impression, en fait, que, justement, les esclaves sont un peu des marchandises comme les autres, au sens aussi où on en vend dans plein d'endroits différents. Et c'est pas certain qu'il y ait des lieux qui leur soient spécifiquement dédiés. Et donc, on a l'impression qu'on peut vendre des esclaves à la fois dans des grandes places centrales, dans des espaces qui sont quasiment des petites places de village, dans des grandes foires agricoles, par exemple, où on vend à la fois des animaux et on réserve un temps pour la vente des hommes, etc. Mais en fait, les espaces, disons, de la vente sont extrêmement divers.
Oui, c'est comme les marchés, quoi.
Oui. Oui, oui.
Que les marchés n'importe quel produit agricole ou autre.
Ouais, ouais.
C'est exactement comme ça.
Ouais.
Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Alors, bon, vous nous avez dit tout à l'heure la diversité des qualifications. Les prix varient en fonction de la qualification, je suppose.
Bien sûr.
Enfin, ce qu'on a montré dans les diplômes, Spartacus ou autres.
Ouais, oui. Alors, bien sûr, après, une question extrêmement importante pour nous, c'est d'évaluer le niveau des prix en général par rapport aux autres marchandises. Et là, c'est absolument certain, on peut le montrer, hein, que, disons, l'époque classique et encore une grande partie du début de l'époque hellénistique se caractérise par des prix bas. Des prix vraiment bas. Et là, on voit bien, on est au cœur du fonctionnement de cette société esclavagiste. C'est-à-dire que les esclaves sont pas chers. Ils sont pas chers. Alors, c'est dans un monde, hein, le monde grec du 5e, disons, au 2e siècle avant notre ère, qui est en perpétuelle expansion, qui est en guerre perpétuelle, c'est-à-dire, donc, qui produit un nombre considérable d'hommes et de femmes et d'enfants destinés au marché d'esclaves. Mais c'est une marchandise qui est très, très peu chère.
L'offre est considérable.
Voilà. Durant cette période, c'est très clair.
Ah, ouais.
Et une des grandes transformations silencieuse, c'est pas toujours facile à documenter, mais quand même sur lequel on a assez peu de doutes, c'est que les grandes transformations des structures sociales antiques à partir de, disons, du 3e, 4e siècle de notre ère, c'est d'abord ce qu'on dirait inséparable de la fin de l'expansion de l'Empire romain. À partir du moment où cet empire cesse de s'étendre, il produit moins de prisonniers de guerre, les sources d'approvisionnement en esclaves sont plus. Donc la main-d'œuvre, en tout cas en esclaves, se renchérit. Il s'agit cette fois-ci d'installer davantage les esclaves, de parfois essayer de reproduire la population servile grâce à l'accroissement naturel et non plus
par l'achat, par
les marchés. Ouais. Et ça change énormément de choses. En fait, lentement, les structures sociales changent considérablement.
Nous faisons une troisième pause musicale. Alors, je vais vous proposer donc James Carter and the Prisoner. La chanson qui s'appelle Paul Lazarus, qui est donc une chanson qui a été utilisée dans le film
Oh Brother,
voilà, c'est ça, merci.
In the house.
Alors, cet esclavage antique, ce qui est intéressant, vous l'avez fait dans vos recherches et dans vos publications, et je trouve ça passionnant, non pas que l'histoire se répète, mais en tout cas, entre l'esclavage de l'Antiquité et la façon dont s'organise le travail de nos jours, et s'organise depuis, on va dire, 2 siècles, 2-3 siècles, il y a un lien. Il y a un lien évident, en particulier également avec le développement du capitalisme. On pourrait presque dire que ça rappelle peut-être les classes de Marx. Peut-être, il y a quelque chose.
Oui, mais alors ça, il y a différentes façons, disons, de le poser, de penser ce lien entre l'esclavage et la modernité capitaliste, d'un point de vue historien. Bon, il y a un point d'abord qui est que vraiment depuis 20-30 ans, les historiens du travail et les historiens du capitalisme insistent sur le fait que... Enfin, ils ont déconstruit cette représentation totalement idéologique, qui voudrait que la modernité capitalistique, la modernité industrielle, est reposée principalement sur le travail libre, le travail des libres, et sur le travail salarial. En fait, c'est tout à fait inexact. Si on étudie d'abord l'histoire globale du travail, c'est-à-dire le capitalisme à l'échelle de l'ensemble du monde à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il est certain que la grande majorité des travailleurs du monde n'étaient pas des travailleurs libres. Ils n'étaient pas nécessairement esclaves, loin s'en faut. Mais il y a plein de statuts intermédiaires, l'engagisme, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais surtout, ils ont montré que l'esclavage tel qu'il existe au XIXe siècle, par exemple dans le sud des États-Unis, par exemple au Brésil, n'est pas du tout un système archaïque qui aurait été dépassé par la modernité capitaliste industrielle. Au contraire, il était pleinement intégré à cette modernité capitaliste. Par exemple, je pense aux travaux très impressionnant de Kaitlin Rosenthal, qui a travaillé sur les formes de management à l'œuvre dans les plantations et qui a très bien montré comment ces formes de management avaient pu être reprises dans le monde de l'industrie, dans le monde usinier, tel qu'il est en train de se créer aux États-Unis autour des années 1850. Bon, et de ce point de vue-là, l'esclave du 19e siècle et le prolétaire appartiennent à un même monde, à un même, disons, régime d'exploitation, le capitalisme, dans le courant du 19e siècle. De la même manière que Marx le disait, il n'y a pas de textile, pas de révolution textile en Angleterre en 1850 sans les champs de coton américains. C'est totalement intégré. Donc on peut déjà le penser de cette façon-là. Le capitalisme n'a jamais libéré les non, mais parce que dire. Parce que c'est on aussi c'est aussi c'est aussi redonner je veux dire une c'est redonner un écouter à nouveau et redonner un poids à la parole qui était celle des ouvriers français du 19e siècle quand ils comparaient leur salariat à de l'esclavage. Il disait quelque chose en fait de très très profond qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre, plutôt que cette grande représentation, qui distingue le travail libre et le travail salarié. Bon, alors une autre façon de le poser, moi qui m'intéresse particulièrement en tant qu'antiquisant depuis l'Antiquité, c'est un peu différent. C'est en fait de montrer en reprenant ce qu'avait fait un très très grand historien du droit de l'Antiquité qui s'appelle Yann Thomas. Yann Thomas montrait la chose suivante, qui est très très impressionnante, c'est que dans le monde antique, la notion de travail, en tant que catégorie abstraite, n'existe pas. Il n'y a même pas de mot, ni en grec, ni en latin, pour nommer ce que nous, on appelle le travail. C'est-à-dire une catégorie abstraite qui peut faire l'objet d'une transaction, comme on aliène du travail, en aliénant du temps de travail, etc. Ça n'existe pas dans la pensée grecque et romaine. Mais Thomas a montré que s'il y a un endroit, un moment, un acte dans la vie quotidienne dans lequel quelque chose comme le travail a pu émerger, a pu naître, c'est dans une procédure juridique tout à fait particulière qui est la location des esclaves, le louage d'esclaves, pour le dire plus techniquement, qui est un phénomène massif dans l'Antiquité. Mais pas que dans l'Antiquité, je veux dire, par exemple dans le monde arabo-musulman, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que des esclaves sont loués par un maître à un autre entrepreneur. Et c'est un entrepreneur ou un autre maître. Bon. C'est très important parce qu'on voit bien, par exemple, dans l'Athénée du bois classique, qu'il y a des individus qui font fortune par ce biais. C'est-à-dire qu'ils constituent des cheptels d'esclaves qui sont destinés au louage. Et il y a des secteurs entiers d'activité qui reposent sur le louage d'esclaves. Par exemple, les mines, l'exploitation minière, c'est le cas. La prostitution, qui est un phénomène massif dans le monde antique, repose sur le fonctionnement du louage d'esclaves. Et Thomas montrait qu'en droit romain, c'est dans cette pratique du louage d'esclaves qu'on en est venu, que les juristes en sont venus, à dissocier la personne du travailleur, en l'occurrence de l'esclave, de quelque chose qui donne et qui fait l'objet d'une transaction, qui est son travail. Puisque, d'un point de vue juridique, c'est le moment où il faut dissocier la propriété qui reste entre les mains du maître et ce qui est loué. Et ce qui est loué, c'est le travail. C'est quelque chose comme le travail. Donc c'est intéressant puisqu'on voit que dans ce cas-là, la notion de travail, si elle a pu un tout petit peu émerger dans la pensée ancienne, c'est pas au sujet d'individus libres, de citoyens, mais c'est dans le contexte du travail des esclaves. Et la catégorie juridique à l'œuvre, c'est la locatio operarum. Or, ce qui est frappant, c'est que la locatio operarum, c'est le terme, donc c'est qui est un terme de droit romain qui a, disons, sa propre densité, sa propre solidité en termes juridiques dans le contexte romain. C'est la notion qui est reprise à la fin du XIXe siècle par les juristes européens, en France, en Italie, en Allemagne, pour penser le droit du travail. Puisque d'une certaine façon, ce qui se joue... Alors, bon, des juristes ont travaillé dans ce sens-là. Ce qui se joue, il y a bien un héritage du droit romain, en fait, de très très longue durée, qui est l'héritage d'une société esclavagiste. Ce qui se joue dans le contrat de travail, c'est bien un acte contractuel par lequel, en fait, si on reprend les catégories du droit romain, si on croit bien que cette locatio operarum, ce concept, de toute façon, a survécu à cette histoire plurimillénaire, ce qui est en jeu dans le contrat de travail, c'est bien un acte par lequel le salarié loue cet autre lui-même qui est, d'une certaine façon, l'esclave qui autrefois était loué. C'est-à-dire que c'est comme si le salarié se dédoublait en deux personnes. Il était à la fois le maître qui contracte et l'esclave du maître qui est l'objet du contrat et qui va travailler. Bon. Et donc là, on a peut-être une structure juridique très très ancienne qui est encore à l'œuvre dans le contrat de travail moderne. Ce qui explique, parce que c'est Alain Supiot, donc un grand juriste du droit du travail, qui explique bien que le droit du travail contemporain, et c'est toute sa violence, et c'est depuis la fin du XIXe siècle, et c'est toutes ses limites, est d'abord un droit des choses. On contracte comme on contracte sur des choses. Et ça, je pense que c'est l'héritage, celui d'un droit esclavagiste.
Ouais. C'est en fait les agences de travail temporaires. Et on pourrait presque dire que la situation s'aggrave, puisque c'est une option qui est de plus en plus retenue par les entreprises, de s'adresser aux agences de travail temporaires. Et les entrepreneurs, effectivement, louent un morceau de travail.
Ah oui, dans ce sens-là, bien sûr.
Et ça a tendance à prendre de plus en plus d'importance. On est en train de...
Oui. Alors, bon, par ailleurs, il y a la désagrégation, disons, du droit du travail lié à la société salariale disons des années 50, 60, 70, et ça c'est certain.
Oui. Et c'est un renforcement du contrat individuel.
Complètement.
Le travail d'une personne. C'est pas sur la personne. C'est sur le travail. Enfin, c'est la personne qui le contracte, mais c'est pour son travail. Donc c'est ça.
Complètement. Avec ce modèle de l'auto-entrepreneur.
Oui, par exemple.
Entrepreneur de soi, bien sûr.
Donc, on a là quand même quelque chose de je trouve, passionnant dans votre réflexion, dans vos bouquins, justement sur cette reprise, en quelque sorte, dans le droit du travail, je ne vais pas dire ce qu'il y a de pire, mais peut-être, dans l'Antiquité.
Oui, mais si vous voulez, en fait, moi, une question qui m'importe depuis longtemps, c'est en fait aussi d'essayer de penser, dans la mesure où on prétend être les héritiers du monde gréco-romain, et nous le sommes en partie seulement, qu'est-ce que de ce monde nous avons hérité qui a trait à l'esclavage, sans que nécessairement le lien soit direct. Mais ce monde, dans toutes ses dimensions, et c'est bien en ça qu'il s'agit de société esclavagiste, ce monde, dans toutes ses dimensions, est un monde qui est aussi le produit de l'esclavage. Et donc, nous héritons de choses de ce monde qui viennent, en fait, de la configuration esclavagiste qui lui a donné naissance. Par exemple, vous voyez, un domaine très intéressant aujourd'hui, moi j'ai découvert ça, que je trouve complètement fascinant, qui est qu'il y a un retour du droit romain pour, du point de vue de tous les juristes qui réfléchissent au statut des robots aujourd'hui. En particulier parce qu'il faut imaginer la dissociation entre ceux qui possèdent les robots et les robots qui sont plus ou moins autonomes. Et penser en droit cette distinction entre des figures, la figure, disons, moderne du robot qui devient de plus en plus autonome, mais à laquelle on ne peut pas reconnaître une pleine personnalité comme à un être humain, ça pose énormément de questions. Ça suppose de dissocier, par exemple, la personnalité de la responsabilité. Et de ce point de vue-là, le droit romain est plein de ressources. Plein de ressources, puisque justement, en raison même de l'esclavage, bah, il y a des figures de droit, des acteurs du droit qui ne sont pas des sujets de droit, qui n'ont pas de personnalité juridique. Et donc, par exemple, tout le droit du pécule, qui est vraiment tout un domaine, disons, du droit romain, qui concerne le pécule du fils de la famille, mais aussi et surtout de l'esclave, inspire beaucoup de juristes contemporains pour penser ce que pourrait être la responsabilité ou la personnalité attribuée au robot.
Oui, c'est une grande discussion en ce moment.
Oui, tout à fait.
Grande discussion. Eh bien, écoutez, Paulin Ismar, merci beaucoup pour votre présence,
merci
pour vos
vous.
Commentaires. Vraiment très, très, très intéressant. Je vous dis tout de suite que vous avez votre ronde serviette, c'est comme ça que j'ai dit, dans la position. Vous pourrez revenir, bien sûr, et en particulier sur l'avancée de cette réflexion particulièrement passionnante. Voilà, on va se quitter. Je terminerai donc avec une œuvre de Khatchaturian, Spartacus. Et donc, on écoutera l'adagio pour finir cette émission. Au revoir à nos auditeurs et à bientôt.
Merci.